La machine à désintégrer par Arthur Conan Doyle. Le professeur Challenger était de l'humeur la plus exécrable. Arrêté contre la porte de son bureau, les pieds sur le paillasson, la main sur la poignée, j'écoutais le long monologue dont résonnaient tous les échos de la demeure. Oui, voilà, je le répète, la seconde fois qu'on m'appelle à tort. La seconde de la matinée. Pensez-vous qu'un homme de science est à se laisser distraire de son œuvre essentielle par l'intervention de quelque idiot à l'extrémité d'un fil? Non, je ne l'admettrai pas. Allez me chercher le directeur tout de suite. Ah, vous êtes le directeur. Eh bien, pourquoi ne dirigez-vous pas? Le certain, c'est que de la façon dont vous dirigez, je n'ai aucune paix au milieu de travaux dont vous ne sauriez comprendre l'importance. Veuillez me passer l'inspecteur. Il est sorti. J'aurais dû m'en douter. Je vous traînerai devant les tribunaux, si le fait se renouvelle. J'ai eu gain de cause en justice contre des coqs qui m'assassinaient de leur chant. Pourquoi vos sonneries perpétuelles sera-t-elle moins condamnable que des cocoricos? L'affaire, monsieur, est claire. J'exige des excuses écrites. Bon, j'aviserai. Je vous salue. Et là-dessus, je risquais mon entrée. Assurément, j'avais mal choisi mon heure. Le professeur se détournait du téléphone. Il me présentait un mufle de lion furieux. Son immense barbe se hérissait toute. L'indignation gonflait sa large poitrine. Il me toisait arrogamment de ses yeux gris, cependant que venaient mourir sur moi les remous de sa colère. « Satané coquin » beuglait-il. « Drôle payé pour ne rien faire. Je les entendais rire de mes plaintes. Tout se conjure pour m'ennuyer. Il ne manquait plus que vous. Jeune Malone, pour couronner cette matinée désastreuse. Êtes-vous là pour votre compte, ou votre torchon de journal vous envoie-t-il m'interviewer? Je vous reconnais des privilèges en tant qu'ami, mais non point en tant que journaliste. » Je cherchais dans ma poche la lettre dont m'avait chargé pour lui McArdle, le secrétaire général de la Gazette. « Puis-je vous lire cette lettre, monsieur? Elle est de McArdle, mon chef de service. » Je me souviens de lui comme d'un échantillon pas trop fâcheux de son espèce. Du moins, vous porte-t-il une très vive admiration. À diverses reprises, il s'est tourné vers vous quand il voulait, dans une enquête, s'appuyer sur l'autorité la plus haute. Et c'est le cas, aujourd'hui. Qu'est-ce donc qu'il désire? Sous l'influence de la flatterie, Challenger se rengorgeait comme un gros oiseau. Je vous lis la lettre de McArdle. Veuillez aller voir notre digne ami, le professeur Challenger, et solliciter son concours aux fins que voici. Un individu de nationalité lettonne, qui habite Whitefriars Mansion, à Hampstead, se donne pour l'inventeur d'une machine extraordinaire, capable de désintégrer n'importe quel objet placé dans sa sphère d'influence. La matière, dissoute, reviendrait à sa condition moléculaire ou atomique, et par une manœuvre inverse, elle se reconstituerait. Si extravagante que semble cette prétention, on a de fortes raisons de croire qu'elle n'est pas sans fondement, et qu'il se pourrait que notre homme eût fait une découverte remarquable. Inutile d'insister sur ce qu'elle aurait de révolutionnaire et sur l'arme de guerre qu'elle fournirait, le cas échéant. Avec une force qui désintégrerait un cuirassé ou ferait d'un bataillon, ne fût-ce que momentanément, une poussière d'atomes, on se rendrait maître du monde. Ainsi, un double intérêt, social et politique, commande d'aller, sans perdre un instant, au fond de cette affaire. L'inventeur, pressé de vendre son invention, recherche la publicité. Donc, point de difficulté à le joindre. La carte si incluse vous ouvrira sa porte. Ce que je désire, c'est que vous vous rendiez chez lui, avec le professeur Challenger, que vous voyiez de près son invention et que vous écriviez un article motivé sur le crédit qu'elle mérite. À ce soir de vos nouvelles, R. McArdle. Telles sont les instructions auxquelles j'obéis, professeur. Et j'ajoutais, en repliant la lettre, sincèrement, j'espère que vous daignerez venir avec moi, car avec mes capacités limitées, comment me ferais-je, moi seul, une opinion en pareille matière? En effet, Malone, en effet. Oh, Ronald, le grand homme, quoique vous ne soyez pas dépourvu d'intelligence naturelle, je conviens que l'affaire en question vous dépasse. Et puisque aussi bien la matinée m'a déjà été à demi gâchée par les inqualifiables gens du téléphone, peu importe qu'elle le soit davantage. Je m'occupe de répondre à ce bouffon italien, Mazzotti, dont les vues sur le développement larvaire des termites ont excité ma dérision et mon mépris. Mais je puis remettre à ce soir le plaisir de le confondre. En attendant, je suis à votre service. » C'est ainsi que, par un matin d'octobre, je me trouvais, en compagnie du professeur, emporté à toute vitesse dans les profondeurs du métro, vers le nord de Londres, où m'attendait l'une des plus singulières aventures de ma vie. Avant de quitter Enmore Gardens, j'avais fait un mandat honorable au téléphone en m'assurant par son office que notre homme était chez lui et en l'informant de notre venue. Il occupait un appartement convenable dans Hampstead. Nous y dûmes faire antichambre une demi-heure en attendant la sortie d'un groupe de visiteurs avec lesquels il était en conversation animée et qu'à leur accent, lorsqu'ils prirent congé de lui dans le hall, nous connûmes être des Russes. L'entrebâillement de la porte nous permit de les voir au passage. J'eus l'impression d'hommes intelligents, satisfaits, avec leur pardessus à col d'astrakhan, leur haute forme reluisant, et cette apparence de bien-être bourgeois que le succès confère si vite à la riviste arrivée. Ils n'avaient pas plus tôt franchi le seuil du hall que Théodore Nemor entra dans la pièce où nous nous tenions. Je pus le considérer à loisir, tandis que debout, en plein soleil, frottant ses mains longues et fines, le sourire aux lèvres, lui-même nous étudiait d'un regard astucieux et jaune. Il était court, râblé, le corps un tant soit peu déformé, sans qu'on pût dire à quoi tenait cette déformation. Il donnait assez l'idée d'un bossu sans bosse. Sa large figure molle avait l'apparence, la couleur, la consistance moite d'une pâtisserie mal cuite. Et les boutons, les furoncles qui la criblaient, se détachaient agressivement sur la pâleur du teint. Ses yeux étaient d'un chat, et d'un chat la longue moustache qui s'effilait au-dessus de sa bouche flasque, humide, baveuse. Bref, il n'y avait rien dans ce visage que de répugnant et d'ignoble jusqu'au niveau des sourcils roux. Mais la voûte crânienne offrait une hauteur, une ampleur, telle que j'en ai rarement vue. Le chapeau même de Challenger eût convenu à cette magnifique tête. Si, par en bas, elle trahissait chez Théodore Nemor une âme de conspirateur vile et rampante, au contraire, par en haut, elle révélait un penseur et un philosophe digne de prendre rang parmi les premiers de l'époque. « Eh bien, messieurs, » fit-il d'une voix de velours où s'attardait à peine une pointe d'accent étranger, « vous venez, à ce que j'ai cru comprendre par votre communication téléphonique, vous vous renseignez auprès de moi sur le désintégrateur Nemor. Parfaitement. Puis-je vous demander si vous représentez le gouvernement britannique ?»« Point du tout, » répondis-je. « Je suis rédacteur à la Gazette et voici le professeur Challenger. Un grand nom, un nom européen. » Les gros jaunâtres du laiton luisaient dans un obséquieux sourire. « J'allais me faire un devoir de vous prévenir que le gouvernement de ce pays vient de perdre sa chance. Ce qu'il perd de surcroît, il le saura peut-être un jour. Et peut-être n'est-ce rien de moins que son empire. J'étais prêt à me dessaisir de mon invention en faveur du premier gouvernement qui m'en donnera le prix que je voudrais. S'il vous déplaît de la savoir aux mains où elle est aujourd'hui tombée, ne blâmez que vous-même. Donc, vous avez vendu votre secret, pour le prix que j'en demandais. Et vous pensez que l'acheteur en gardera le monopole, sans nul doute. Mais d'autres que vous le connaissent ? Non. » Théodore Nemor frappa du doigt son vaste front. « Non, il est là, bien enfermé, mieux sauvegardé que par n'importe quel coffre d'acier, par n'importe quelle clé Yale. Quelques personnes en peuvent assurément posséder telle ou telle bribe, quelques autres telle ou telle autre. Personne ne le possède en entier sauf moi. Pas même ces messieurs à qui vous l'avez vendu, pas même. Je ne suis pas si fou que d'aller le livrer avant d'en avoir reçu le prix. Au surplus, c'est moi que l'on achète, et ce coffre-là. » Théodore Nemor se frappa de nouveau le front. « Excusez-moi, monsieur, » gronda Challenger, qui avait jusqu'alors écouté en silence, mais dont le visage expressif traduisait assez éloquemment ce qu'il pensait de Théodore Nemor. « Nous ne serions pas fâchés de nous convaincre, avant de rien discuter, que la chose en vaut la peine. N'oublions pas le cas de cet Italien qui, tout dernièrement, se flattait de faire exploser des mines à distance et n'était, vérification faite, qu'un imposteur. Vous comprendrez, monsieur, que j'ai à soutenir ma réputation scientifique, une réputation que vous avez bien voulu qualifier d'européenne et que j'ai d'ailleurs toute raison de croire non moins établie en Amérique. La prudence est un des attributs de la science. Pour que nous prenions au sérieux vos affirmations, il faut d'abord que vous nous en donniez des preuves. Nemo jeta au professeur un regard haineux, mais son sourire hypocrite s'élargit encore. Vous justifiez le renom qu'on vous fait, professeur. J'ai toujours ouï dire qu'il n'y avait pas au monde un homme sur qui la tromperie eût moins de prise. Je suis tout disposé à vous donner de mon invention une démonstration qui ne saurait manquer de vous convaincre. Mais auparavant, il me faut en quelques mots généraux vous en exposer le principe. Le matériel expérimental installé dans ce laboratoire n'est, vous le concevez, qu'un modèle réduit, bien que dans les limites de son action, il se comporte de façon admirable. Par exemple, je n'aurai avec lui aucune peine à vous désintégrer et à vous reconstituer. Mais si un grand pays s'apprête à me verser des millions, ce n'est pas dans un dessein si modeste. Le modèle que voilà ne représente qu'un jouet scientifique. Utilisé sur une grande échelle, la même force produira d'énormes effets. Pouvons-nous le voir, votre modèle ? Non seulement vous pouvez le voir, professeur Challenger, mais je puis en faire la démonstration la plus décisive, si vous avez le courage de vous y soumettre. Si, rugit le professeur, si, savez-vous bien qu'un pareil si, monsieur, est souverainement outrageant ? Bon, je ne songe pas à contester votre courage. Je ne veux que vous fournir l'occasion d'une démonstration péremptoire. Mais souffrez que d'abord je dise un mot des lois qui régissent la matière. Certains cristaux, le sel notamment ou le sucre, placés dans l'eau, s'y dissolvent et disparaissent. Jamais vous n'y reconnaîtriez leur présence. Diminuez cependant la quantité de l'eau, soit par évaporation, soit par tout autre moyen, et voilà votre sucre qui redevient visible, identique à lui-même. Pouvez-vous concevoir une opération analogue qui vous dissolve, vous, un être organique, dans le sein du cosmos, et par un renversement subtil des conditions, vous reconstitue ensuite ? Fausse analogie, protesta Challenger. Supposez même qu'une monstrueuse force dissociatrice eut la faculté de disperser nos molécules, comment, par-dessus le marché, les rassemblerait-elle dans le même ordre ? L'objection va de soi. Tout ce que je peux y répondre, c'est que les molécules se rassemblent et dans l'ordre originel jusqu'au dernier atome de leur structure. Il y a comme une charpente dans le cadre de laquelle chaque brique reprend sa vraie place. Souriez, tant qu'il vous plaira, professeur. Votre incrédulité cédera très vite à d'autres sentiments. Challenger haussa les épaules. Je ne demande qu'à subir l'épreuve. Alors prenez la peine de me suivre. L'appartement donnait par derrière sur un petit jardin au fond duquel s'élevait un grand appentis. L'inventeur nous fit descendre et traverser le jardin. La porte de l'appentis était fermée à clé, il l'ouvrit, nous entrâmes. Devant nous s'étendait une vaste pièce blanchie au lait de chaux. D'innombrables fils de cuivre festonnaient le plafond. Un piédestal supportait un électroaimant gigantesque. En face était un prisme de verre, et à la droite de ce prisme, une plateforme de zinc, avec un siège au-dessus duquel pendait un chapeau de cuivre bruni. Du chapeau comme du siège partaient de lourds fils métalliques. Enfin, sur l'un des côtés se trouvait un levier pivotant autour d'encoches graduées et dont la poignée de cuivre était, pour l'instant, arrêtée à zéro. « Le désintégrateur Nemo, » fit l'homme étrange en désignant du geste la machine. Voici le modèle destiné à devenir fameux par la façon dont il modifiera l'équilibre entre les peuples. Qui le détiendra gouvernera le monde. Vous avez, je puis bien le dire, professeur Challenger, manqué tant soit peu envers moi de courtoisie et d'égard. Oserez-vous prendre place sur ce siège et vous prêter à la démonstration de ce que peut faire l'énergie nouvelle? Challenger avait le courage du lion, et le moindre semblant de défi le mettait hors de lui-même. Il se rua vers l'appareil, mais je l'attrapai par le bras et l'obligeai à reculer. « Halte là !» lui dis-je. « Votre vie a trop de prix. La risquer ainsi serait insensée. Quelle garantie de sécurité avez-vous ? J'ai vu la chaise d'électrocution de Sing Sing. Il n'y a rien que cet appareil rappelle davantage. Ma garantie de sécurité, c'est que je vous ai pour témoin. Ce monsieur encourait certainement l'inculpation d'assassinat, s'il m'arrivait quelque chose. Piètre consolation pour la science !» quand il y perdrait l'achèvement d'une œuvre que vous seul pouvez mener à bonne fin. Laissez-moi passer le premier, vous aurez votre tour une fois prouvé l'innocuité de l'expérience. » Le danger personnel n'eut pas ému Challenger. L'idée de laisser son œuvre inachevée le toucha au point sensible. Il hésita. J'en profitai pour m'asseoir d'un bond sur le siège. L'inventeur mit la main sur la poignée. J'entendis un déclic. J'eus un moment la sensation qu'un voile tombait, brouillant tout devant moi. Quand il se releva, l'inventeur me considérait avec son odieux sourire et par-dessus son épaule, Challenger, dont les joues, habituellement rouges, étaient devenues exsangues, écarquillait d'effarement les prunelles. « Eh bien, qu'attendez-vous » dis-je. « Mais c'est fait. Vous vous en êtes admirablement tiré, » me répondit Némor. « Cédez la place. Le professeur, j'en suis sûr, ne demande qu'à l'apprendre. » Jamais je n'avais vu mon vieil ami si bouleversé. Ses nerfs d'acier l'avaient trahi. Sa main tremblait en me prenant par la manche. « C'est pourtant vrai, Malone, » me dit-il. « Vous aviez un moment disparu. Pas d'erreur possible. » Il s'était fait un brouillard, puis un vide. Qui dura combien de temps? 2 ou 3 minutes. J'étais, je l'avoue, frappé d'horreur. Je n'imaginais pas que vous puissiez revenir. Cependant, il a suffi que ce levier, si c'en est un, passât d'un cran à un autre pour que vous fissiez votre réapparition sur le siège, l'air un peu ahuri, mais autrement, tout à fait le même. Ah, je remercie Dieu en vous revoyant. À vous maintenant, monsieur, dit Nemo, si toutefois vous vous en sentez encore le courage. Se ressaisissant au prix d'un effort visible et tout à coup écartant ma main tendue dans un geste de protestation, il s'élança sur le siège. Le levier s'arrêta au cran numéro 3, et sur le siège, il n'y eut plus personne. Le sang-froid de l'opérateur eut raison de mon épouvante. Intéressant, n'est-ce pas? Commentait-il. Penser qu'une individualité aussi terrible que le professeur est en train de flotter, à l'état de nuage moléculaire, sur un point quelconque de cette pièce. Naturellement, je tiens le professeur à merci. Rien au monde ne m'empêcherait, si je le voulais, de le laisser en suspension dans l'espace. « J'aurais tôt fait de vous en ôter l'envie, » m'écriai-je. Le sourire de Némor s'effaça dans un rictus. « N'allez pas croire que j'y ai jamais pensé. Moi, vouloir la dissolution permanente du grand professeur Challenger, sa dispersion à tout jamais dans l'espace cosmique. Il est vrai que je n'ai pas eu à me louer de ses manières. Et sans doute, estimerez-vous qu'une petite leçon? Non, certes. Eh bien, nous appellerons ça une démonstration curieuse. Par exemple, j'ai découvert que les tissus organiques, n'étant pas sensibles aux mêmes vibrations que le système pileux, je puis l'en détacher et l'y rattacher à ma guise. Je ne serais pas fâché de voir le vieil ours dans sa fourrure. Regardez. » Le levier cliqueta. La seconde après, Challenger avait repris place sur le siège. Mais quel Challenger? Un lion passé à la tondeuse. Tout furieux que j'étais de la plaisanterie, j'ai eu grand mal à ne pas pouffer de rire. Son crâne était nu comme celui d'un bébé, son menton lisse comme celui d'une jeune fille. Veuf de sa glorieuse toison noire, le bas de sa figure saillait lourdement dans la forme d'un jambon. Challenger avait l'air d'un vieux gladiateur meurtri, tuméfié, avec un mufle et des mâchoires de bulldog. L'eut-il quelque chose sur nos visages? Le méchant sourire de Némor avait dû s'allonger. Toujours il y a que, portant la main à sa tête, il eut conscience de sa métamorphose. Il se précipita hors du siège, empoigna l'inventeur à la gorge, le coucha par terre, et comme je lui savais une force peu commune, j'eus peur. « Au nom du ciel, ne tuez pas cet homme, ou vous rendriez tout irréparable » m'écriai-je. L'argument produisit son effet. Jusqu'en ces moments de pire folie, Challenger demeurait accessible à la raison. Il se redressa, remit sur pied l'inventeur, tout tremblant, et d'une voix suffoquée par la colère. « Je vous donne 5 minutes !» lui dit-il. « Si dans 5 minutes je ne suis pas redevenu tel que j'étais, je vous étrangle !» On ne discutait pas avec un Challenger en furie. L'homme le plus brave ne s'y fut pas hasardé. Et il ne paraissait point que M. Némor fût d'une bravoure exceptionnelle. Au contraire, ses pustules, ses furoncles avaient pris du relief, à mesure que son visage échangeait la couleur du mastic, qui lui était habituelle, contre celle d'un ventre de poisson. Il frissonnait de tous ses membres. La main à la gorge, il articulait à peine ses mots. En vérité, professeur, tant de violence était bien inutile. Entre amis, que diable! On se passe une plaisanterie inoffensive. Je ne voulais que vous démontrer le pouvoir de ma machine. J'imaginais que vous souhaitiez une démonstration complète. Point d'offense, là. Je vous le certifie, professeur. Point d'offense. Challenger, pour toute réponse, regrimpa sur le siège. Ayez l'œil sur lui, Malone. Ne lui permettez aucune fantaisie. Soyez tranquille, monsieur. Je veille. Et que tout rentre dans l'ordre, ou je ne réponds pas de ce qui arriverait. L'inventeur, terrorisé, s'approcha de l'appareil, poussa le levier à fond, et s'en fut assez pour que le vieux lion recouvrit instantanément sa crinière. Ses mains caressèrent amoureusement sa barbe, puis sa chevelure. Après quoi, assuré de sa restauration totale, il descendit solennellement de son perchoir. « Vous avez pris avec moi, monsieur, une liberté qui aurait pu avoir pour vous de sérieuses conséquences. Je veux cependant admettre que vous n'ayez songé qu'à votre démonstration. Puis-je à présent vous poser quelques questions sur le très remarquable pouvoir dont vous revendiquez la découverte ?»«
Je vous ai dit, monsieur, que mon appareil est un simple modèle. Rien de plus facile que de lui donner de toute autre dimension. Il agit dans le sens vertical. Au-dessus et au-dessous de vous passent des courants, et les vibrations qu'ils émettent tantôt vous désintègrent et tantôt vous réingrègent. Mais l'opération pourrait tout aussi bien se faire par les côtés. Elle produirait des effets identiques sur une étendue proportionnelle à la force des courants.
Je vois la vallée de la Tamise balayée tout entière, et de cette fourmilière humaine, pas un être qui reste, homme, femme ou enfant.
Non seulement ces mots me remplirent d'horreur, mais plus encore le ton d'exultation sur lequel ils étaient prononcés. Ils me semblèrent pourtant ne pas produire le même effet sur Challenger. À ma grande surprise, souriant avec bienveillance, il tendit la main à l'inventeur.
« Ma foi, monsieur Nemor, nous n'avons qu'à vous féliciter. Vous venez sans contredit de mettre à la disposition de l'homme une propriété remarquable de la nature. Que l'application puisse être destructive, c'est, je l'accorde, déplorable. Mais le savant ne s'arrête pas à des considérations de cet ordre. Il suit la connaissance en quelque voie qu'elle le mène. Verriez-vous un inconvénient pour votre secret à ce que j'examine la construction de votre appareil ?»
Challenger tournait alentour, palpant ici une pièce, là une autre. Il finit par hisser sur le siège sa masse imposante. « Est-ce que, dit l'inventeur, il vous plairait d'aller faire dans le cosmos une nouvelle excursion ? Plus tard, peut-être plus tard. En attendant, je vous signale qu'il y a dans votre machine une perte d'électricité, légère, mais non douteuse. Je sens le courant passer en moi. » Impossible. L'appareil est complètement isolé.
Challenger descendit du siège. Nemor se hâta de les remplacer.
Je ne sens rien. Pas un picotement le long de l'épine dorsale.
Un cliquetis se fit entendre. Nemor avait disparu.
Juste ciel, m'écriai-je. Auriez-vous touché la machine, professeur ?
Je regardai stupidement Challenger. Il me sourit d'un air d'aimable surprise.
Eh mon Dieu, fit-il, j'aurais touché la poignée par mégarde. On est exposé à de fameux accidents avec un modèle comme celui-là,
qui n'est qu'une ébauche. Ce levier devrait être protégé.
Le voilà, au cran numéro 3. C'est le point où se fait la désintégration.
Effectivement, je m'en suis aperçu au moment où vous subissiez l'expérience.
Malheureusement, dans mon trouble, je n'ai pas remarqué sur quel cran la reconstitution s'était faite.
Vous en êtes-vous rendu compte, vous ?
Il se peut, jeune Malone. Mais je ne m'embarrasse pas la mémoire de détails si infimes. Les crans sont nombreux et nous ignorons à quoi ils correspondent. En jouant avec l'inconnu, nous risquerions d'aggraver les choses. Autant vaut que nous en restions là.
Mais alors, cet homme ?
Tout est fort bien ainsi. L'intéressante personnalité de M. Théodore Nemor s'est distribuée dans le cosmos. Sa machine n'a plus de valeur. Un certain gouvernement y perd la connaissance d'un secret funeste.
Au bout du compte, nous n'avons pas trop mal travaillé ce matin, jeune Malone.
C'est pour votre feuille un beau sujet d'article que l'étrange disparition d'un inventeur laiton peu après votre visite. J'ai pris grand plaisir à l'expérience.
Ainsi, quelques joies égayent la sévère routine de l'étude.
Mais autant que ces agréments, la vie a ses contraintes. Il est temps que je revienne à mon Mazzotti et ses vues absurdes sur le développement larvaire des termites tropicaux.
Ainsi s'achève La machine à désintégrer, par Arthur Conan Doyle.